En marche vers le ciel. Bonjour Marc,
bonjour Étienne,
bonjour à tous. Nous sommes autour de cette table afin de trouver dans les Écritures ce que ça signifie d'avoir le sens du sacrifice, autrement dit, d'avoir le sens du don de soi. Alors nous aurons pour ligne directrice, 1. Les principes fondamentaux dans la parole de Dieu. 2. L'exemple ou les exemples du Seigneur Jésus dans sa vie et dans sa mort. Et 3. Notre mise en pratique à nous. Y aurait-il un passage biblique qui vous viendrait à l'esprit pour, en guise d'introduction à ce sujet ?
Donc je propose qu'on lise dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix.
Là, on arrive directement dans l'exemple du Seigneur Jésus, bien sûr, parce que tout ce qui est selon la pensée de Dieu est fondé et centré sur le Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons déjà retirer quelques enseignements fondamentaux de ce passage ?
Il est difficile, bien sûr, pour nous de réaliser ce que ça a été pour le Seigneur Jésus, d'être dans la gloire et en obéissance à l'amour du Père, de dire, ben voilà, je vais prendre l'aspect d'un homme sur la terre, de quitter ce lieu où il n'y avait pas de péché, où tout était dans la perfection, et de venir sur la terre. De prendre, donc, étant trouvé en figure comme un homme.
Oui. Et si je lis dans ce chapitre 2 de Philippiens, au verset 4, il est dit « Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun regardant à ce qui est aux autres. » Je pense que là, on trouve déjà un élément du sens du sacrifice, c'est de ne pas regarder à son intérêt personnel, à soi, mais de regarder au bien et à l'utilité envers les autres. Et ensuite, tout de suite, là, nous avons alors l'exemple du Seigneur Jésus, qui, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Donc, l'inverse de s'élever, il s'est abaissé.
L'apôtre dit un peu plus haut, mais qu'il y ait donc en vous cette pensée. C'est le verset 5. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. C'est une prière, un désir, un enseignement de l'apôtre pour que il y ait en nous ce même esprit qui a été dans le Seigneur Jésus, de s'abaisser et de ne pas regarder à ce qui est à soi, mais à ce qui est aux autres.
On pourrait donc dire que le sens du sacrifice, selon la parole de Dieu, contient en tout cas une notion de renoncement. Mais attention, pas un renoncement à contre-cœur, mais on dirait un renoncement volontaire, un renoncement de plein gré, et même avec joie. On lit dans un autre passage que le Seigneur, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré des souffrances.
Oui.
Je pense qu'il y a ce passage qui nous parle de la joie aussi dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 9. Verset 7, c'est déjà « Que chacun fasse selon qu'il se l'ait proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Alors on y reviendra peut-être, mais donner, il ne s'agit pas uniquement de donner de l'argent, par exemple. C'est donner son temps, donner son énergie, s'investir, donner sa vie. Même.
Et dans cet abaissement que nous avons ici dans Philippiens 2, il s'est anéanti lui-même. Et dans beaucoup de passages, on retrouve cette expression « lui-même ».
Lui-même, oui.
Montrant là que, voilà, c'était en effet de plein gré, c'était aussi sa volonté d'agir. On vient de lire, ce n'est pas sous contrainte.
Oui.
Ce n'est pas Dieu qui lui a dit « prends cette forme ».
Non. Pierre Combes disait « personne ne pouvait l'abaisser ». Et il s'est abaissé lui-même.
Oui. Donc dans ce sens du renoncement de soi, du don de soi, eh bien, c'est fait volontairement, on pourrait dire avec joie, de plein gré, pour être agréable à Dieu. Je pense qu'il y a cette pensée aussi dans le sens du sacrifice selon la parole, c'est que nous donnons pour être agréable à Dieu, parce que Dieu prend plaisir dans la générosité.
Un tel sacrifice.
Nous avons affaire à un Dieu qui est généreux par essence. Et Dieu aime retrouver dans les hommes, dans les femmes, dans ses rachetés, les caractères de Christ. C'est quelque chose qui lui est agréable. Le but, donc, de tout sacrifice, c'est pour plaire à Dieu. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu, si ce n'est de trouver quelque chose qui est caractéristique à son Fils bien-aimé? Alors on peut donner ce que l'on possède, ce sont des dons que nous avons reçus de Dieu, pour les mettre à son service. On peut donner de son temps, on peut donner de son énergie, de sa disponibilité. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles nous pouvons être généreux envers les autres, toujours par amour pour Dieu. On peut donner donc ce qu'on possède, et puis on peut se donner soi-même encore. C'est encore peut-être un niveau plus absolu, c'est que nous ne nous appartenons plus, nous oublions parfois ça peut-être, nous avons été rachetés, corps, âme et esprit, notre vie appartient à celui qui l'a racheté, et il faudrait que nous comprenions que tout cela n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas propriétaires, en fin de compte, en aucun cas. Nous sommes des administrateurs de la grâce variée de Dieu. Et tout ce que Dieu met à notre disposition, c'est pour le gérer et non pas pour l'accaparer et pas pour faire barrage.
Bien sûr, dans nos sacrifices, il y a sans doute un aspect aussi de la reconnaissance envers Dieu,
oui,
qui nous tire du péché, qui nous tire de la mort pour nous donner la vie éternelle. Dans la personne du Seigneur Jésus, ça va encore beaucoup plus loin, parce que lui n'a été ni racheté.
Non.
Il était Dieu lui-même, et il se donne entièrement. On a plusieurs passages dans la parole qui nous montrent qu'il s'est donné. Il s'est donné lui-même pour nos péchés.
Oui.
Il s'est donné lui-même en rançon pour tous ou pour plusieurs.
Oui.
Il s'est donné pour nous, pour nous racheter, pour nous purifier, dans Tite 2.
Oui.
Et aussi dans Éphésiens 5, il s'est livré lui-même pour nous. Il y a toujours ce mot « lui-même » qui revient, mais aussi on voit, voilà, tout ce que le Seigneur a fait dans ce don de lui-même.
Dans les Hébreux, il est dit qu'il s'est offert à Dieu sans tâche. Il s'est offert à Dieu.
Là, on a une belle pensée aussi, donc, je répète, on a dit tout à l'heure, le sacrifice, c'est un renoncement de soi, de plein gré, volontaire, pour être agréable à Dieu, de ce qu'on possède ou de soi-même, pour Dieu.
Oui.
Pour Dieu. Et aussi pour les autres. Les deux vont de pair.
Oui. Ça me fait penser aussi à un verset qu'on doit trouver ici, 2 Corinthiens 8, de Corinthiens 8, verset 1, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu donnée aux saints dans les assemblées de Macédoine. Verset 3, selon leur pouvoir, j'en rends témoignage, et au-delà de leur pouvoir, ils ont agi spontanément. Nous demandons avec de grandes instances la grâce et la communion de ce service envers les saints. Et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur et puis à nous.
Par la volonté de Dieu.
Oui. Ils avaient bien saisi la pensée, se donner à Dieu premièrement et puis... tout à fait logiquement, aux saints, aux enfants de Dieu.
Tout donner à Dieu, tout mettre, se mettre à disposition pour Dieu, quoi qu'il en coûte, c'est à cela que nous sommes appelés, en tant que rachetés du Seigneur. Et la moindre chose que nous donnons pour Dieu ou à Dieu, même si c'est petit aux yeux des hommes, a une énorme valeur aux yeux du Seigneur. On trouve cet exemple de cette femme qui jette deux petites pièces, les plus petites pièces qu'il existe dans le trésor du temple. Aux yeux des hommes, on dirait c'est négligeable, ça ne vaut même pas la peine d'en parler.
Oui.
Mais c'est tellement important aux yeux du Seigneur qui lui l'a vu. Peut-être que les autres n'ont pas vu.
Oui.
En tout cas, on pourrait comprendre en lisant le passage que les disciples n'ont pas vu ça. Mais le Seigneur l'a vu parce que le Seigneur voit tout. Et il trouve ça tellement important qu'il appelle ses disciples. Il dit, je veux que vous sachiez ce qui vient de se passer là. Et il dit, cette femme a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné de sa propre subsistance, de ce dont elle avait besoin, et elle l'a donné pour Dieu. Elle n'a pas donné de son superflu. Et voilà ce que Dieu pense, même de ce qu'on pourrait appeler, entre les hommes, des petits sacrifices. Ce n'est pas toujours petit aux yeux du Seigneur. Et on pourrait croire que certains grands sacrifices, aux yeux des hommes, eh bien peut-être ne sont pas aussi grands que ça, aux yeux du Seigneur.
Dans la première partie donc, qu'on veut analyser de principes bibliques fondamentaux, je pense que justement, dans cette expression des dons que nous avons reçus, on pense souvent justement à ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. On cite les différents dons qui peuvent exister.
Tu veux parler des dons spirituels?
Des dons spirituels, par l'esprit. Mais il y a sans doute aussi cette dimension qu'on ne comprend pas toujours si on n'y réfléchit pas comme on est en train de le faire maintenant, que c'est vrai qu'on reçoit quelque chose, mais c'est parce que dans ce qu'on vient de recevoir, il faut alors qu'on se donne entièrement dans ce service que le Seigneur nous a donné. C'est pas simplement dire « je reçois quelque chose, oh ben je vais essayer de l'employer », mais c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi... On peut le lire dans l'Épître aux Éphésiens, les dons qui sont donnés, les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, voilà. Mais il y a dans ces services, justement, un don tout entier, une consécration tout entière de la personne qui reçoit ce service de la part du Seigneur.
En effet, si je lis dans Éphésiens 4, verset 7, il est écrit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et un peu plus loin, il est dit,
verset 11,
oui, « Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints. » Donc, on comprend dans ce passage que c'est pas seulement que nous recevons chacun un don,
oui.
C'est que nous sommes le don du Seigneur avec l'action de l'Esprit à l'Assemblée. Et le but, c'est en vue du perfectionnement des saints. Donc, nous exerçons un don spirituel avec ce sens du sacrifice et du don de soi-même pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Mais, en effet, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne pourrais me donner aux autres ou me mettre à la disposition des autres que si vraiment mon cœur est engagé pour le Seigneur, si j'ai premièrement donné ma vie au Seigneur. Autrement, on ne peut pas inverser l'ordre, et c'est pas possible non plus de faire l'un et pas l'autre. On peut pas dire je me donne au Seigneur, mais je ne veux pas me donner aux autres.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Mais dans le monde, et l'esprit humain pourrait dire je me consacre aux autres, mais pas au Seigneur. Alors on fait de l'humanitaire.
Oui.
Mais cela n'est pas, ce n'est pas ça qui est agréable aux yeux de Dieu.
De David, il est dit qu'il a mis sa vie dans sa main à l'occasion de l'affrontement avec Goliath. Il a mis sa vie dans sa main. Il a estimé sa vie, il l'a donnée au Seigneur.
Et c'est là qu'il y a une grande victoire.
Oui.
Mais pas la sienne, celle de Dieu.
De la foi.
Au travers de lui. Oui. Et bel exemple de David, puisque David, il s'avance au nom de l'Éternel. Il met sa vie entre les mains de Dieu. Pour qui ? Pour un peuple, on pourrait dire, pas très fidèle.
Oui.
Pas très fidèle. Et pourtant, il le fait. Et ça, c'est, on pourrait dire, c'est à l'image de Christ. Parce que c'est qui les autres ? On dit, et nous venons de dire, eh bien, il faut avoir le don, le sens du sacrifice de soi, le sens du don de soi pour les autres. C'est qui les autres ? Est-ce que les autres, c'est seulement ceux qu'on aime bien ou qui nous rendent quelque chose ? Alors, les autres, ça commence à la maison, je pense. Il y a les autres autour de nous, notre époux, notre conjoint, il y a les enfants, il y a la famille au sens plus large. Peut-être qu'on peut avoir le sens du sacrifice pour ceux qui nous sont proches. Mais après, il y a les autres qui sont en dehors de la maison. Ici, on a lu en Éphésiens 4, les autres, ce sont les autres rachetés, les frères et sœurs du rassemblement, mais pas seulement de ceux avec qui nous nous réunissons, avec qui nous asseyons. La maison de la foi, elle est beaucoup plus grande que ça encore.
Ouais.
Et puis, il y a encore les autres, en dehors de l'Église, en dehors de l'Assemblée, les incrédules. Est-ce que nous avons un sens du sacrifice de nous-mêmes envers les incrédules qui ont besoin d'entrer en contact avec la grâce du Seigneur. À l'image du Seigneur, le passage que nous avons lu tout à l'heure en début de séance, c'est que le Seigneur est descendu sur la terre. À ce moment-là, eh bien, c'était que pour des pécheurs qui ne le méritaient pas. Et il a tout abandonné, la gloire du ciel, pour nous. Qu'il y ait donc cette pensée en vous qui était dans le Christ Jésus. Peut-être que nous pouvons maintenant passer vraiment à l'exemple du Seigneur Jésus dans sa vie, pas seulement bon, il est descendu du ciel, il s'est donné en sacrifice, mais entre sa naissance, entre la crèche et la croix, on voit aussi de nombreux exemples du sens du sacrifice que le Seigneur avait parmi les hommes.
Je suis venu pour servir et non pour être servi. En envoyé du ciel, en tant que fils de Dieu, on aurait pu considérer qu'on devait lui rendre quelque chose de pratique, disons, hein, dans ce temps-là. Mais le Seigneur dit non, je n'ai pas besoin qu'on me serve.
Il était venu aussi, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et ça ne peut pas nous conduire à penser que le Seigneur avait une volonté différente de celle du Père.
Donc le Seigneur Jésus s'est anéanti, nous avons lu cette expression, On peut le voir dans tous les aspects de sa vie. Lui qui, pour qui et par qui toutes choses ont été créées. Il est né comme cet enfant couché, emmailloté dans une crèche. Au lieu de naître dans la gloire parmi les hommes, avec un renom, il est né comme celui qui est ensuite désigné comme le fils du charpentier de Nazareth.
Oui.
Il s'est dépouillé de tous les honneurs aux yeux des hommes. Il a accepté d'être vu comme celui qui aux yeux du monde et des valeurs du monde n'a pas d'importance.
Dans son abaissement, aussi au début de son ministère, il descend vers Jean qui baptisait au Jourdain.
Oui.
Là aussi, il aurait pu revendiquer quelque chose, mais il s'identifie pleinement au peuple. Il ne revendique rien. Il va vers Jean et lui dit non, il faut aussi que je sois baptisé. Ce n'était pas fondamental pour lui de passer par le baptême. Mais c'est l'occasion aussi à Dieu de pouvoir après faire entendre sa voix.
C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit le Seigneur Jésus qui s'abaisse volontairement pour honorer le Père, bien dans ces occasions précises, on voit comment Dieu, le Père qui est au ciel, prend soin de mettre en évidence la gloire du Fils. Comme si Dieu disait « Ne vous y trompez pas ». Celui-ci, alors que le Seigneur passe par les eaux du baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Sur la montagne de la Transfiguration, lorsque Pierre pourrait mettre le Seigneur au niveau d'un prophète ou d'un prophète parmi les autres, eh bien, Dieu intervient de nouveau et on entend la voix de Dieu du haut du ciel qui dit « Attention, celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et ils ne virent que Jésus seul. Donc, on voit aussi comment Dieu, qui est juste, élève celui qui s'est abaissé, celui qui n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, celui qui ne s'est pas élevé lui-même, eh bien Dieu va l'élever. Alors que Adam dans le jardin a voulu s'élever, il est tombé. Christ, fils de l'homme, s'est abaissé, Dieu l'a élevé.
On voit aussi dans son enseignement, Jean 13, le Seigneur Jésus va se mettre aux pieds de ses disciples pour leur montrer ce qu'ils avaient à faire. Il aurait pu demander à l'un de ses disciples de faire le geste et d'expliquer ce que ça signifiait, mais il le fait lui-même. Il s'abaisse, il se met à genoux devant ses disciples pour laver leurs pieds.
Et il dit, je vous ai laissé un exemple.
Oui, donc on voit donc dans l'évangile plusieurs exemples où le Seigneur Jésus, on va dire, s'abaisse, sacrifie quelque chose, on pourrait dire, de sa gloire pour le bien de ses disciples, comme dans ce cas-là. Cela dit, sacrifier quelque chose de sa gloire, on pourrait le formuler autrement, parce que ça lui ajoute une gloire.
Oui. Pas sa gloire morale, mais sa gloire divine.
Je parle aux yeux des hommes, aux yeux de la chair. On pourrait croire que... Non, ça lui ajoute les gloires divines, les gloires morales. Mais ça, il faut le voir par la foi et par l'esprit pour bien le comprendre. Donc, il le fait pour ses disciples. Il le fait pour ceux... on va dire les croyants, mais il le fait aussi dans son enseignement. Le Seigneur donne aussi un enseignement qui est utile aux incrédules aussi. Et le Seigneur s'abaisse. Si je lis dans Matthieu 5, 38, « Vous avez ouï qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi, t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre, de faire un mille, vas-en deux avec lui. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. » Là aussi, on trouve le sens du sacrifice. Pas de vengeance. C'est quelque chose qui est très rapide dans notre cœur naturel. C'est de se faire justice.
Oui.
Immédiatement, oui. Le plus vite possible. Mm-hmm. Mais le don de soi, comme le Seigneur Jésus l'enseigne, c'est aussi ne pas insister sur ses propres droits. Et œil pour œil, dent pour dent, on pourrait dire, c'est juste. Le Seigneur va plus loin. Et c'est pour ça qu'il est venu sur la terre, et le Seigneur Jésus va appliquer cet enseignement. Et il ira jusqu'à la croix, jusqu'à accepter toutes les injustices, on pourrait dire, contre lui, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à la mort, on revient au passage du départ, jusqu'à la mort, mais la mort de la croix. Donc le sacrifice, le Seigneur nous donne un exemple, on parlait d'exemple tout à l'heure, Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple.
Oui. La pire des injustices, il l'a acceptée.
Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a accepté la pire des injustices ? Pour être agréable à Dieu. Parce qu'il était dans le propos de Dieu de sauver des pécheurs, et c'était le seul moyen.
Dans ce que tu viens de lire, je pensais alors à une autre circonstance, justement dans les droits qui étaient revendiqués par les Juifs. C'est quand le Seigneur s'en va, et il nous est dit en Jean 4, il fallait qu'il traversât la Samarie. Mmh. Et il rencontre, il va s'asseoir sur la margelle du puits, et il attend cette femme qui va venir puiser. Et la parole nous dit, car les Juifs n'ont point de relation avec les Samaritains. Le Seigneur fait abstraction, justement, de cette règle, pourrions-nous dire, qui existait entre les Juifs et les Samaritains, qui ne voulaient pas se parler. On connaît sans doute les raisons fondamentales, hein, c'est parce que, voilà, ces Samaritains étaient une peuplade qui avait remplacé les 10 tribus dans ce royaume d'Éphraïm. Et maintenant, ils étaient là présents. Et le Seigneur passe expressément à travers ce pays pour venir s'asseoir à un puits, sachant qu'une femme va venir puiser de l'eau. Et il y a cette conversation qui s'ouvre. Le Seigneur ne regarde pas ce qu'il est. Il aurait pu dire, je suis juif, moi. Je ne vais pas m'approcher d'une Samaritaine. Non. Il fait abstraction.
La femme, on est tout étonnée. Comment toi qui es juif, demandes-tu ? Dans les exemples que dans Luc 18, il y a Pierre qui dit, Luc 18, verset 28, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Le Seigneur répond, « Il n'y a personne qui ait quitté maison ou parents ou frères ou femmes ou enfants pour l'amour du royaume de Dieu et qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci et dans le siècle qui vient la vie éternelle. Pour l'amour du royaume de Dieu. » C'est le royaume qui appartient à Dieu, mais le royaume, il est constitué de personnes.
Et le Seigneur a marché de manière infatigable sur cette terre pour aller à la rencontre de ces personnes qui avaient besoin dans leur cœur, besoin de justice, besoin de pardon, besoin de guérison. Et là aussi, nous voyons peut-être un renoncement du Seigneur Jésus, c'est que lui pour qui, par qui toutes choses ont été créées, lui qui n'a pas de limite, il a marché comme un homme. Il a fait pas après pas. Il s'est limité au corps humain. On n'a pas toujours idée de ce que c'est. Pourtant, nous souffrons, nous, de notre faiblesse. Eh bien, le Seigneur Jésus s'est limité au corps humain dans les capacités, pas dans toutes les capacités, mais dans les capacités du corps humain pour se déplacer, par exemple. Oui. Il a connu la fatigue, Il aurait pu se déplacer instantanément sans être fatigué, et pourtant, il passe en plein midi par ce chemin pour rencontrer cette Samaritaine. Il descend le chemin vers Jéricho pour rencontrer Zachée. Il ira jusque dans les contrées de Tyr et Sidon pour rencontrer une femme non-juive. Et voilà, le Seigneur Jésus, on pourrait dire, a fait don de certains privilèges qu'il aurait pu utiliser, mais qu'il n'a pas utilisé, parce qu'il voulait rencontrer les pécheurs. Il voulait nous rencontrer chacun, là où nous sommes, à notre niveau. Et puis le Seigneur est allé jusqu'au jardin de Gethsémané. Il est allé et s'est enfoncé dans ce jardin la nuit où il fut livré à un jet de pierre des disciples qu'il a laissés derrière lui, parce qu'il est allé là où aucun d'entre nous, aucun disciple ne pourrait aller. Il va plus loin que ce que nous pourrions faire. Il est seul. Il est seul dans ce sacrifice ultime qu'il va faire de sa propre vie, dans de grandes souffrances à la croix. Et jusque-là, le Seigneur n'a rien retenu pour lui. Et il ne retiendra rien, et il ne reculera pas pour donner sa vie en sacrifice, pour passer durant ces 3 heures sombres de la croix, où il va prendre la coupe de la colère de Dieu contre le péché et la boire jusqu'à la nuit. Voilà le sens du sacrifice de soi, mais vraiment comme le cœur humain ne peut pas l'imaginer. Être abandonné de Dieu. L'horreur d'être fait pécher à notre place. Eh bien, le Seigneur Jésus l'accepte. Non pas ma volonté, mais la tienne.
Et dans cette scène, on voit quand même l'intensité de ce combat. Ça n'a pas été rien, même pour le Seigneur Jésus lui-même. Bien sûr, il avait devant lui cette condamnation, cette place qu'il allait prendre comme condamné par le peuple, et aller beaucoup plus loin encore, parce que ça, c'était relativement à l'incompréhension du peuple, à l'incrédulité du peuple. Et il savait qu'il allait avoir les 3 heures sombres.
Oui.
Et sans doute là, cette expression, étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment. Là aussi, on entre dans quelque chose du don de sa personne que l'on ne peut pas saisir pleinement.
Non, ce n'est pas possible, et il ne faut même pas essayer. On ne peut pas analyser les pensées du Seigneur à ce moment-là. Notre part à nous, c'est d'être admiratif et reconnaissant devant un tel sacrifice. Une reconnaissance qui sera éternelle et pleine, absolue. Et le Seigneur l'a fait pour la gloire de son Dieu et Père et pour notre bénéfice à nous. Il s'est donné à Dieu en tant qu'homme pour notre bénéfice, comme on le disait tout à l'heure.
Dans un cantique, nous chantons cet amour sans le comprendre. Nous l'adorons à genoux, car la croix te fit descendre et s'abaisser jusqu'à nous. On ne peut pas comprendre l'infini de ce que le Seigneur Jésus a connu.
Tout de suite après Gethsémané, en Jean 18, il dit à ceux qui viennent le prendre, « Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci, afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite, de ceux que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. » Le Seigneur se donne aussi d'une certaine manière à ceux qui viennent le prendre, puisque plus haut, il a démontré qu'il avait le pouvoir de les anéantir, mais il la laisse faire et il se livre pour nous.
Oui, d'ailleurs, dans Jean 10, Jean chapitre 10, il dit « Personne ne me l'ôte ».
Oui.
Il parle de sa vie.
Oui.
« J'ai le pouvoir de la donner ».
De la laisser et de la reprendre.
J'ai reçu ce commandement de la part de mon Père. Il a reçu ce commandement de la part de son Père. Et c'est son plaisir d'accomplir la volonté de Dieu. Et cela va l'amener dans des profondeurs, dans des souffrances qui sont insondables. Alors il est bon d'y penser souvent. Est-ce que le Seigneur a accepté de donner pour nous? Peut-être que si nous pensions plus souvent à ce que véritablement il a fait et ce qu'il a donné, comment il s'est donné lui-même en sacrifice, à quel point, ça ferait de nous des disciples plus proches de lui, plus proches de son exemple aussi. Des paroles même du Seigneur Jésus, il est écrit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Alors, est-ce que nous en sommes convaincus? Mais vraiment, nous connaissons le verset, mais est-ce que nous en sommes convaincus dans notre cœur? Il est plus heureux de donner que de recevoir. Alors, il est plus, on pourrait dire aussi, il est plus béni, il y a plus de bénédiction dans le fait de donner que de recevoir. Ça dépend de la version qu'on trouve, mais le bonheur de donner. Le Seigneur Jésus a tout fait de plein gré avec joie. Et il y a toujours cette joie en vue, hein, lorsque Dieu donne quelque chose, lorsque le Seigneur donne quelque chose, eh bien, la joie de donner, ou de se donner. Peut-être quand on est jeune dans la foi, on est heureux d'être sauvé pour l'éternité. Et puis après, on commence à lire la parole de Dieu et on se rend compte que la parole de Dieu, elle est vivante et opérante et elle nous engage à nous avancer dans le chemin de la foi à la suite du Seigneur. Et on pourrait avoir peur de se donner au Seigneur. En se disant, j'aimerais retenir quelque chose pour moi. Mais la parole nous dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Et, comme on l'a lu tout à l'heure, Pierre a dit, nous avons tout quitté pour toi. Le Seigneur dit, vous en recevrez 100 fois autant. Et en plus, ces dons-là, le don de soi ou de sa vie au Seigneur quand on est racheté, c'est pas seulement pour la terre, c'est pour un résultat éternel, qui subsiste dans l'éternité. Parce que, en principe, ce que nous voulons garder parfois, même sans l'admettre, sont des choses pour la terre qui prendront fin. Le Seigneur dit, donnez-moi tout. Donnez-moi tout et vous serez heureux. Il faut le croire. C'est par la foi qu'on croit cela. Et dans l'expérience, chacun le dira, la moindre chose qu'on a donnée au Seigneur, on en a été réjoui. Peut-être parfois des choses qu'on n'imaginait pas être capable de donner, on l'a donné, et puis on a la paix dans le cœur, on a la joie, on se sent approuvé de Dieu, et là c'est la véritable communion avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des exemples de personnages bibliques qui montrent que malgré peut-être les privations ou les difficultés, dû à un sacrifice, quel qu'il soit, dans sa vie, eh bien, ce personnage biblique aurait expérimenté la véritable communion du Seigneur, la proximité et la joie d'avoir fait ce don.
Je pense à Joseph. Pendant tant d'années, éloigné de la maison, et qui a rencontré bien de l'opposition, même lorsqu'il était seul, s'est retrouvé prisonnier, s'est retrouvé vraiment isolé de tout le monde extérieur. Je pensais à Genèse 39, où à deux reprises, au verset 21 et au verset 23, il nous est dit, et l'Éternel était avec Joseph.
Oui.
Et il étendit sa bonté sur lui, et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la tour. Et à la fin du verset 23, l'Éternel était avec lui, et ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Bien sûr, ici, Joseph ne s'est pas donné. C'est pas lui qui était trouvé la caravane en disant « je me vends comme esclave ». Mais malgré tout, le voilà seul, abandonné. Mais on voit là que, dans la situation dans laquelle il se trouve, il est avec l'Éternel. L'Éternel est avec lui. Et il y a justement cette communion, cette relation étroite de Joseph. Dans toutes les circonstances qui furent les siennes, je pense à ces versets, mais il y en a d'autres dans sa vie. Et lorsqu'il parle à ses frères, on voit combien il ne garde pas d'amertume, ni de rancune, ni rien vis-à-vis de ses frères. Lorsqu'il se découvre, voilà, au chapitre 45, au verset 7, et Joseph dit, et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre, pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu.
Il voyait les circonstances avec les yeux de la foi.
Oui.
Et on peut dire la même chose de Moïse.
Oui.
En Hébreux 11, verset 23, il est dit, par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents. Ensuite, au verset 24, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. C'est quand même remarquable de voir que ce fils d'Hébreu, étant devenu grand, alors grand, en âge, en stature, mais aussi probablement socialement, dans ce monde d'Égypte, où il est devenu grand, eh bien, il a choisi plutôt d'être dans l'affliction. Pourquoi ? Parce qu'il estimait comme un plus grand trésor d'être dans l'opprobre du Christ que dans la richesse du monde. Voilà où était le trésor pour lui, alors qu'il était entouré des richesses,
oui,
de ce monde dans l'Égypte. Eh bien, il voit avec les yeux de la foi. Et ensuite, on lit dans le Pentateuque que Dieu parlait avec lui comme face à face, et son visage rayonnait de cette relation qu'il avait avec Dieu. Abraham, le père de la foi aussi, avait quitté Ur, les Chaldéens. Il était parti d'une ville probablement très, très organisé dans le monde, pour vivre sous des tentes, comme un étranger, comme un pèlerin. Mais nous le voyons là, sous les chaînes de Mamré, Dieu vient à sa rencontre pour lui parler. Et Abraham, en Genèse chapitre 22, nous voyons là un sens du sacrifice qui est quand même hors du commun. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le en sacrifice. Aucune objection. Il se lève et il est prêt à faire ce que Dieu a dit. Parce qu'il a confiance. Il a confiance que ce que Dieu dit est juste et bon. Alors bien sûr, ça nous parle du sacrifice du Fils. Ça préfigure Christ, le Fils de Dieu, qui sera, lui, véritablement mis à mort en sacrifice. Mais on pourrait peut-être aussi prendre ce passage de Genèse 22 d'un point de vue très pratique dans notre vie. Voilà, Dieu nous donne beaucoup de choses dans notre vie. Et voilà, Dieu a donné enfin le Fils promis à Abraham. Et puis, Dieu lui dit, maintenant, donne-le-moi. On pourrait être confus devant cette demande de la part de Dieu, en disant, mais tu me l'avais promis, Depuis si longtemps j'ai attendu, maintenant que je l'ai, tu me demandes de m'en défaire. Oui. Dieu ne voulait pas que Isaac soit offert en sacrifice.
Non.
Non. Dieu voulait que le cœur d'Abraham soit prêt à tout lui donner s'il le dit. Et Dieu nous donne des choses dans la vie, des choses ou des personnes, et nous devons être prêts à les abandonner ou à les perdre, on va dire, à les sacrifier, si c'est la volonté de Dieu. Et cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu que nous les sacrifions, mais ce qui compte, c'est l'état d'esprit et la foi qui doit régner dans notre cœur. Et Dieu lui a rendu son fils. Et donc, quoi que ce soit que Dieu nous donne, sur cet exemple de Genèse 22, nous devons être prêts à le sacrifier si Dieu le dit. Par amour pour lui, par confiance en Dieu, en se disant, le don vient de Dieu. Le don sans Dieu n'a pas de valeur. Dieu sans le don reste le Dieu Tout-Puissant et le Dieu qui m'aime avant tout et au-dessus de tout. Dans le Nouveau Testament, il y a peut-être aussi d'autres exemples.
Je pensais à Timothée, Philippiens 2 encore. L'apôtre dit au verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. » Et puis il dit, « Je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne, parce que tous cherchent leurs propres intérêts et pas ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il était connu à l'épreuve, savoir qu'il a servi avec moi dans l'Évangile comme un enfant sert son père. » On peut dire de Timothée qu'il avait une sincère sollicitude de l'apôtre, il est dit, à l'égard de toutes les assemblées. C'est aussi une forme du don de soi, de penser aux besoins des saints, des assemblées, les porter sur son cœur devant le trône de la grâce.
Et cette pensée dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui, donc Jésus-Christ, a laissé sa vie pour nous, et nous devons laisser nos vies pour les frères. Laisser nos vies pour les frères, à l'exemple du Seigneur Jésus. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que le sang coule, mais ça veut dire se consacrer sa vie pour le bien de ceux qui sont rachetés par le Seigneur, de ceux qui sont aimés au même titre que nous par le Seigneur. Ici, le verset suivant dit que celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors, c'est un exemple très pratique de biens matériels. Et il ne faut pas oublier cette libéralité. La libéralité, on en est parlé aussi dans la parole de Dieu comme véritablement un signe de générosité. Il faut le faire de la part de Dieu envers les autres âmes, que l'âme qui reçoit se rend compte que ça vient du Seigneur, au travers des frères et sœurs, par exemple. Et cette libéralité, elle fait plaisir. Et lorsqu'on trouve dans le Nouveau Testament l'enseignement sur la libéralité et les dons financiers et matériels, c'est le même terme que communion, l'unité de pensée. C'est quand même quelque chose de très fort. Et on donne. Et il faut faire attention à l'avarice. L'avarice, ça veut dire garder pour soi. La parole nous en parle, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer ce sujet, mais peut-être nous en parlons très peu parmi nous, parce que ça nous condamne d'une façon ou l'autre, mais l'avarice est quelque chose qui est clairement condamné par Dieu. Garder des biens alors qu'il pourrait être utile aux autres. C'est contraire à la pensée de Dieu, c'est contraire à ce que Dieu est dans sa nature. Alors si vous avez une petite intervention pour conclure ou terminer, nous allons rester là pour aujourd'hui.
Je pense qu'on n'a pas lu Romains 12.
Non.
Notamment le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et le verset 2 aussi, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite.
Parce qu'en fin de compte, la volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Et tout ce qui est identique ou conforme à ce que Christ a fait, a dit, est agréable devant Dieu.